enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais vous poser une question. Qui pense être là quand Jésus va revenir? Est-ce que vous pensez que vous serez là encore? C'est difficile? On peut mettre au vote, on fait une votation. Qui c'est qui lève la main? Qui c'est qui? On ne sait pas, hein, en fait. Bon, il y en a qui espèrent, en tout cas, on ne sait pas. Il y avait un bruit dans l'église primitive qui a couru au tout début, parce qu'à un moment, quand Jésus parlait avec Pierre, hein, et il avait dit, à propos d'un autre disciple, Jean, il avait dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Alors, du coup, les autres qui avaient entendu ça avaient cru que Jésus était en train de dire que Jean vivrait jusqu'au retour du Seigneur. Mais Jésus n'avait pas dit ça. Mais le bruit avait couru comme ça. Effectivement, Jean est le dernier qui est décédé des douze apôtres, il est décédé le dernier. Alors, dans l'église primitive, les gens pensaient toujours que c'était le temps arrivait, mais finalement, il est quand même décédé, et nous attendons toujours aussi encore un Jésus. Alors, on ne sait pas, certains pensent que c'est imminent, il est à la porte, on le souhaite en tout cas. Moi, je n'ai pas d'informations sur les dates. Mais en tout cas, tout ce qu'on veut, c'est aller auprès de lui. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ». Et je pense que même pour Jean, ça a dû être quelque chose d'un peu, une phrase un peu mystérieuse pendant un temps. Et en fait, on trouve la réponse de ce petit mystère dans la réalité du livre qu'on appelle en français l'Apocalypse. C'est un peu dommage qu'en français, on ait donné ce nom à ce livre. En anglais, c'est le livre de la Révélation, et c'est beaucoup plus juste. Hein. Mais parce que Jean était à ce moment-là, donc l'apôtre Jean était très âgé, et il se trouvait dans une île qui s'appelle Patmos, dans la Méditerranée, où il était là en exil à cause de sa foi. Et c'était une île assez déserte, une île très au climat difficile, où il y avait seulement des mines de cuivre ou d'argent, je ne me souviens plus. Et donc, c'était un petit peu un endroit où on envoyait les gens en travaux forcés, en quelque sorte. Et donc, Jean était là, et puis il raconte au début de l'Apocalypse que un jour, tout à coup, eh bien, il a eu donc une révélation. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé, comme une vision, et il a entendu une voix, et il dit que cette voix qu'il a entendue derrière lui était comme une trompette. Hein. Vous savez, aujourd'hui, nous, on est habitués parce qu'on a des micros et des sonos, donc pour nous, ce n'est pas un concept extraordinaire, une voix très très forte. Mais pour des gens qui ne dispose absolument d'aucun système d'amplification de la voix, entendre tout à coup une voix qui arrive et qui arrive comme un tonnerre, comme une trompette, c'était quelque chose, c'est quelque part terrifiant aussi, hein. Et Jean dit qu'il s'est retourné pour voir cette voix. C'est un peu curieux dans le texte. Il s'est retourné pour voir cette voix qui lui parlait. Et alors, il nous fait une description dans le début du livre de l'Apocalypse qui est extraordinaire. Si on peut le lire ensemble, hein, à partir du chapitre 1, verset 12. Alors, comme on lit le texte et puis qu'on va commenter un petit peu les versets un par un à la suite, hein, on ne pourra pas toujours passer la traduction en allemand. Alors je m'excuse auprès des Allemands, je n'ai pas de problème avec les Allemands. Hein? Ich liebe die Deutschen. Voilà. Même si je ne parle pas couramment la langue de Goethe, je ne parle en fait que deux langues, le français et le Zegnesi. Et alors, mais je promets que dans l'éternité, je ferai des efforts. Alors, voilà. Donc, je me retournais. Et alors, ce texte est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Toutes les descriptions de Christ. Et puis, l'Apocalypse nous donne comme ça des descriptions de Jésus dans l'éternité, dans sa gloire, c'est fantastique. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce n'était pas un homme, parce qu'il était bien différent, il était plus grand, il était glorieux, mais c'était quand même similaire à un homme. Il était vêtu d'une longue robe. Une longue robe, c'est le vêtement qu'on met, c'est le vêtement solennel, c'est le vêtement d'apparat quand on est bien habillé, sinon on s'habille court pour travailler. Une longue robe, il avait une ceinture d'or sur la poitrine, une marque de majesté, de royauté. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est pas blanc, c'est pas les cheveux blancs qu'on honore parmi nous. Il faut honorer les cheveux blancs. Hein. Depuis quelques années, je prêche souvent sur ça. Hein. Et il faut honorer les cheveux blancs. Mais ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Ça c'est le blanc qui exprime la pureté divine, hein. La nature de Dieu dans laquelle il y a aucun changement, aucune ombre, hein, aucune imperfection. Il était couronné de pureté et ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire un regard dans lequel il y a toute la connaissance, toute la perception. Rien n'échappe à son regard. Ça veut pas dire d'une façon comme si c'était un regard qui espionne et qui scrute. C'est pas ça. Mais c'est un regard dans lequel il y a toute la connaissance de tout. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, le bronze, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est toujours le symbole du jugement. Et tout jugement lui a été remis. Tout jugement est à ses pieds. Et en même temps, c'est de l'airain ardent. Parce que c'est un jugement de feu, c'est un jugement total. Jugement, ça ne veut pas dire forcément condamnation. Quand on est jugé, on n'est pas forcément condamné. On peut être jugé et acquitté. Mais c'est le jugement. Dieu a remis tout jugement à son Fils, à Jésus-Christ, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Normalement, c'est un peu dangereux d'être embrasé dans une fournaise, hein. Mais le Fils de Dieu a une nature qui est une nature de feu. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est une voix, mais c'est comme une multitude de voix. C'est une voix, mais c'est une voix qui remplit le monde. C'est la voix qui a créé toute chose. Rien n'a été fait si ce n'est par la parole de Dieu. Dieu dit et la chose est. Dieu a tout créé par sa parole et sa parole c'est son Fils. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, une étoile. Vous voyez une étoile dans le ciel? Bien sûr, quand on les regarde, nous on les regarde un peu loin, hein. Alors on voit bien 7 étoiles dans une main, ça tient, quoi, hein. Mais une vraie étoile. Mais dans la main droite du Seigneur, toutes les étoiles se trouvent. Plus loin, il expliquera que ces 7 étoiles sont les anges des églises. C'est-à-dire, c'est la direction de l'église. Tout est dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. C'est cette capacité de juger, de discerner, d'agir, de produire, de non seulement de couper, de séparer, mais également toute la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Autrement dit, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le regarder en face. Quelqu'un qui voudrait regarder le soleil en face lorsqu'il brille dans sa force, c'est très dangereux. Lorsque des enfants ont fait, quelquefois des enfants ont fait des fois des paris stupides comme ça, de regarder le soleil en face comme ça, il faut très peu de temps, une seconde, pour qu'il y ait des décollements de rétine, des choses comme ça qui se produisent, irréversibles, très 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 graves. On peut pas, Jean dit, on pouvait pas le regarder tel qu'il était en face. C'était, c'est pas possible. C'est sa forme, son contour qu'il a vu. Alors il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il était là, il est tombé par terre. Personne ne peut voir Dieu avec sa nature humaine, charnelle, telle que nous sommes. Nul ne peut voir Dieu et vivre. J'ai l'impression que quelquefois nous parlons de Dieu d'une façon un peu, des fois un petit peu légère, comme si, ben ouais, il est là, bon, on lui cause. Oui, Dieu est accessible. Oui, Dieu est relationnel. Oui, Dieu aime la communion. On va parler de ça ce matin. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Et c'est seulement par sa grâce que nous avons la capacité de pouvoir lui parler. C'est par son infinie grâce que Dieu nous écoute. Parce que sinon, Jean aurait pu tomber par terre comme mort et rester mort. Alors la grâce de Dieu a agi. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Une des premières choses que Dieu dit presque toujours aux personnes à qui il se révèle, c'est presque toujours, ne crains pas. Lorsque Jésus arrive ressuscité dans la chambre haute, hein, les apôtres étaient là et il leur a dit, ne craignez pas. Mais vous savez, l'apparition de Dieu dans notre vie, c'est une crainte. Mais ça remonte à quoi? Mais ça remonte au jardin d'Éden. Le premier sentiment que la Bible nous montre que Adam et Ève aient éprouvé après le péché, c'est la peur. Aucun autre. Quand ils se sont aperçus de ce qu'ils étaient, ils eurent peur, c'est-à-dire peur de Dieu. Et toutes les peurs, quelles qu'elles soient, sont la filiation indirecte de la peur que l'homme a de Dieu. Chaque fois que nous avons peur, quelque part, cette peur est une descendance, une conséquence indirecte de la peur de Dieu. Donc, lorsque Dieu se révèle, l'homme a peur. Et il faut que Dieu le rassure. Jésus a rassuré Jean, il a dit, ne crains pas. Encore. Il lui a dit, je suis le premier et le dernier. C'est pas une question de chronologie, ça veut pas dire, mais ça veut dire que ça englobe tout. Ça veut dire, Jésus est en train de dire par là, je suis éternel. Je suis éternel, je suis avant tout et jusqu'au bout de tout. Je suis le vivant. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je sais que quelquefois on a dit que Jésus avait repris les clés du séjour des morts au diable lorsqu'il est ressuscité. À mon avis, c'est excessif. Dieu n'a jamais perdu l'autorité sur quoi que ce soit. Dieu n'a jamais perdu l'initiative de rien. Dieu n'a jamais été amputé d'aucune de ses prérogatives. Dieu n'a jamais été diminué d'une quelconque façon, ni affaibli d'aucune façon par la révolte du diable. Mais Jésus affirme que c'est lui qui l'a. Même dans l'Ancien Testament, hein, la maman de Samuel, Anne, disait, c'est Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts, c'est Dieu qui en fait remonter, personne d'autre. Ne donnons pas au diable des droits ou des pouvoirs, des autorités qu'il n'a pas. C'est un révolté qui est condamné. Mais Jésus-Christ est vainqueur. Hein. Jésus a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a dit à Jean, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Voilà, on peut arrêter là pour l'instant. Et l'Apocalypse est un livre difficile. Et je crois que ce qui le rend souvent difficile, c'est qu'on essaye de le lire un petit peu des fois comme si c'était un livre codé. Comme s'il fallait trouver des espèces de trucs pour lire entre les lignes ou sous les lignes ou derrière les lignes ou peut-être quelquefois en les mixant un peu pour y trouver des choses. Or je crois pas que ce soit le but. Et le mot même apocalypse est un peu dommage en français parce que ça donne l'impression de quelque chose d'abord d'un peu mystérieux et puis surtout d'assez terrifiant. Tandis qu'en anglais le livre de la Révélation déjà c'est plus intéressant, c'est déjà plus attractif, hein. Et Jésus a ensuite donné à Jean des lettres pour cette église qui était dans la région où Jean résidait avant d'avoir été exilé sur l'île de Patmos, où lui il demeurait à Éphèse à ce moment-là. Il y avait dans cette région cette église. Pourquoi Jésus a choisi 7? Parce que c'est un chiffre symbolique. Et si on oublie que dans le livre de l'Apocalypse, tous les chiffres sont symboliques, alors on va faire dire à ce texte des choses dont il ne parle pas du tout, hein. Et donc il y a ces sept lettres. Et quand Jésus dit à Jean d'écrire une lettre pour chacune de ces églises, donc je dirais que c'est une vraie lettre que Jean a écrit sur un vrai papier avec un vrai stylo bille ou un crayon et pour écrire à une vraie église. Et quand il dit tu écriras à l'ange de telle église, cet ange c'est pas un être spirituel, c'est angelos en grec, c'est le messager, c'est-à-dire qu'il lui a dit d'écrire au pasteur de cette église. Il y a dans toute église, il y a un responsable. Nous croyons à la collégialité. C'est pour ça qu'on travaille ici entre on est plusieurs pasteurs. Moi, je suis très content d'avoir Samuel comme pasteur. Ça me sanctifie beaucoup. Mais dans toute chose que Dieu fait, Dieu met une tête. Et ça, j'aime le rappeler à travers ça, c'est que Dieu met une tête dans tout. Dans la Trinité, il y a une tête. Il manque rien à Christ. Toute la plénitude de la divinité a été mise en lui. Mais n'empêche que la Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Pourtant, ça ne le diminue pas. Donc, voyez, les questions d'être chef ou pas chef, c'est pas forcément une question de valeur. C'est une question de fonction. Dieu n'est pas plus grand que Christ. Puisque en Christ, il y a la plénitude de la divinité. Mais Dieu est le chef de Christ. Dans le couple, il n'y a plus ni homme ni femme, mais l'homme est le chef de la femme. Il ne vaut pas plus, il n'est pas meilleur. Bon, quelquefois, mais pas toujours. Mais l'homme est le chef de la femme. Il n'est pas le chef de la femme parce qu'il est meilleur ou parce qu'il vaut plus. Il est le chef du foyer parce que c'est sa fonction. Dans l'Église, il y a des responsables. Ils valent pas plus que les autres chrétiens, mais simplement leur fonction, c'est une fonction de direction. Et à l'intérieur d'une équipe pastorale, même si tous les anciens sont tous des anciens, même si on les appelle anciens, si on les appelle pasteurs, parmi eux tous, c'est normal qu'il y en ait un qui soit aussi celui qui est la tête. Ici, Jésus dit, tu écriras, tu adresseras ton courrier sur l'enveloppe, voilà, tu écriras au responsable de l'église d'Éphèse. Et c'est ce que Jean a fait. Il l'a envoyé à l'église d'Éphèse, après il a envoyé une à Smyrne, et puis à Pergame, à Thyatire, etc. Il a envoyé un chacun. Et il y avait certainement dans chacune de ces églises un collège de responsables. Mais avec ce collège de responsables, il y avait dans chacune de ces églises un pasteur qui est celui que Jésus considère comme l'étoile qui est dans sa main droite. On peut tourner ça dans tous les sens. Peut-être certains diront c'est culturel. Après, la façon dont on le vit, c'est vrai qu'on vivra pas ce modèle-là, on vivra pas forcément dans une culture française occidentale comme on le vivra dans la culture sociale, anthropologique en Afrique ou ailleurs. Mais n'empêche que les bases, les fondements restent les mêmes. Et donc, Jean a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse. Est-ce qu'on peut mettre chapitre 2, 1, s'il vous plaît? Et comme ça, j'aimerais juste qu'on revoie peut-être, si on a le temps de voir avec Éphèse et Smyrne, mais surtout Éphèse, ce que Jésus dit. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà une église qui un jour a eu un audit de Jésus lui-même. Moi, je trouve ça, c'est extrêmement précieux. Imaginez que Jésus nous fasse un audit de comment il voit, comment il comprend notre Église, comment il comprend l'Église dont tu fais partie. Qu'il puisse faire la liste des points forts, des points faibles, ce qui manque, ce qui est à changer, et qu'il lui donne un programme d'évolution. Ça c'est super. Et il a dit donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, hein, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, hein, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Au début de chacune de ces sept lettres, hein, alors Jésus va reprendre un des éléments qui a servi à le décrire. Hein. C'est lui qui est le chef de l'église. Hein. Et parce qu'il est toujours vivant, on n'a pas besoin de le remplacer. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. On n'a jamais besoin de les lire, on n'a jamais besoin de faire monter de la fumée blanche, parce que Jésus reste toujours le chef de l'Église. Comme il est toujours vivant, il le reste. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est formidable. Quand vous voyez aux États-Unis qui passent toute la vie politique à faire des campagnes, hein, ils sortent d'une, ils en recommencent une autre, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Notre Seigneur, notre Maître n'est pas éligible. Il est le chef de l'Église pour l'éternité. Il le reste, il est vivant. Amen. Alors il reste au milieu de l'Église. Il est celui qui a les responsables dans sa main et il marche au milieu des chandeliers. C'est-à-dire qu'il veut exprimer par là combien il est proche, au milieu, il est en relation, il est en communion avec eux. Alors Jésus commence son bilan, il fait son bilan à cette église. Bon, alors il dit, écoute, on va commencer par ce qui marche. Et ça, c'est bien quand on fait un bilan de quelqu'un. C'est bien de toujours commencer par ce qui est bon, hein? Non? Parce que si vous commencez tout de suite par ce qui ne va pas, c'est difficile derrière, hein? Mais Jésus commence par ce qui est bien. Il dit, écoute, je connais tes œuvres. Hein. Je sais que tu as bossé. Je sais que tu t'es donné de la peine. Je connais ton travail. Je sais que c'était difficile. Et vraiment, tu es allé, tu n'as pas baissé les bras, tu as continué. Ça, c'est vraiment super. Bon, je sais aussi que tu n'as pas fait de compromis. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Hein. C'est ici ce que Jésus veut leur dire, c'est que il remarque qu'ils ont marché dans ce qui est vrai. Ils se sont pas laissés avoir par des séductions, par des choses humaines, par ce qui frappe les yeux, par la gloriole, par les choses comme ça. Il dit, vous avez été spirituels, vous avez discerné ce qui est juste, ce qui est vrai. Et s'il y a des gens qui ont dans les yeux qui veulent se voir apôtres, hein, eh ben, tant pis pour eux, hein, laisse, hein, il vaut mieux, c'est pas la peine, hein, regarde l'apôtre qui est dans ton œil, hein, dit la Bible, hein, plutôt que de regarder la paye qui est dans la poche de ton prochain, hein. Tu as persévéré. Et mieux encore, imaginez une église à qui Jésus dit, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ça je trouve c'est un compliment vraiment, vraiment tout en haut ça. Quand Jésus dit à des gens, à une église, à des chrétiens, vous avez souffert. Et quand vous avez souffert pour moi, ça ne vous a pas arrêté. Vous ne vous êtes pas lassé. On se dit, mais après tant de compliments, après tant de choses aussi spirituelles, aussi glorieuses, une église comme ça, c'est fini, elle est tout en haut du panier. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher après? On a envie de mettre un point d'exclamation, et puis c'est fini. On dit, on passe mention très bien, on passe à la suivante. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Parce que maintenant vient la colonne du passif, la colonne du débit. Mais Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Et il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que Jésus désigne par là? Et je crois que souvent, on lit ton premier amour dans le sens premier, dans le sens surtout, dans le sens de premier, dans le sens chronologique, quoi. C'est-à-dire l'amour que tu as au tout début, et pour moi. Et souvent, je crois que c'est vrai, parce que souvent, quand on s'est converti, avec, après un temps de repentance, mais on s'est converti avec beaucoup d'enthousiasme, hein. Beaucoup de gens, c'est vrai ou non? Hein? On s'est converti, on était enthousiasmés. Tout d'un coup, on découvrait tout. On découvrait la vie, le changement. Tout d'un coup, on voyait toutes les choses différemment. C'était tellement, comment je pourrais dire, c'est presque enivrant de sentir que maintenant, on a la protection de Dieu dans notre vie, la bénédiction. On sait comment on va pouvoir être dirigé. On a des solutions. Son esprit nous guérit, nous transforme. C'est extraordinaire, un sentiment d'une telle communion. C'était super quand j'ai découvert Jésus m'a trouvé. Après j'étais là, je me souviens juste avant qu'on se marie, j'étais là, je me couchais le soir, je me couchais, je disais allez bonne nuit Jésus. Après je me rappelais que lui il dort pas, mais c'était un tel sentiment de sa présence à côté, une telle communion. Et malheureusement, quelquefois, on est obligé de se rendre compte qu'avec le temps, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'érosion. Comme si quelque chose s'était usé, fatigué. On n'oserait pas dire qu'on s'est lassé du Seigneur, mais dans le comportement, dans les émotions, ça ressemble un peu à ça. Et je comprends que pour Jésus, c'est extrêmement décevant, c'est extrêmement blessant. Imaginez, c'est comme dans une relation, hein, des fiancés, un couple, hein, lorsque après un temps de grand enthousiasme, l'un s'aperçoit que l'autre n'a plus besoin de lui, que sa présence lui devient moins nécessaire, quelquefois même un peu inutile. Quel déchirement à l'intérieur. Alors finalement, on se dit que ce reproche que Jésus fait est un reproche qui est logique et qui est grave. Même si auparavant l'Église a souffert pour son nom, même si auparavant elle a travaillé, même si auparavant elle a œuvré, même si auparavant elle a été spirituelle, même si elle a dénoncé ce qui est faux, si son cœur n'est plus attaché au Seigneur, tout ce qui reste d'avant, c'est seulement du travail, c'est seulement de l'activité, c'est seulement des comportements. Mais s'il reste plus l'attachement, est-ce qu'il reste grand-chose? Alors, après tous ces compliments, finalement, on se dit, où on avait l'impression que l'actif était, ne pouvait pas être remis en cause, tout d'un coup, on découvre que, avec une simple phrase comme celle-ci, eh bien, il y a un gros problème, un réel problème. Mais aussi, le mot premier, protos en grec, c'est pas seulement... Ça n'a pas seulement ce sens de premier qui vient dans l'ordre chronologique, hein. C'est aussi premier dans la qualité, premier dans l'importance. Par exemple, dans Marc 9, 35, quand Jésus dit « Si quelqu'un parmi vous veut être premier », c'est-à-dire s'il veut être le plus important, c'est le même mot. C'est-à-dire que ce que Jésus leur reproche, c'est pas simplement d'avoir laissé l'amour qu'ils avaient pour lui au tout début de leur conversion, mais c'est aussi d'avoir abandonné, de l'aimer lui en première, en plus grande importance, au-dessus de tout, en priorité, quoi. Et je crois que ça doit nous poser des questions. Ça doit nous poser des questions. Est-ce que aujourd'hui notre amour premier va au Seigneur? Est-ce que aujourd'hui notre amour premier est consacré à quoi, à qui, à quelle recherche? Qu'est-ce qui nous enthousiasme le plus dans la vie. Je me souviens que, je crois que c'est Yonggi Cho qui racontait une fois qu'il y avait une dame qui avait assisté au culte, et pendant tout le culte, elle était restée sans aucune émotion. Elle ne ressentait rien dans la présence de Dieu, rien dans la louange. Elle était là, elle chantait. Si on devait se lever, elle se levait. Si on chantait, elle chantait. Si on levait les mains, elle levait les mains. Mais aucune, pas d'émotion, rien du tout. Et puis, à la sortie de l'église, une petite fille est venue et puis lui a dit, « Madame, j'ai retrouvé votre mouchoir. » Parce que cette dame avait perdu un mouchoir avec des dentelles très fines qu'elle avait fait elle-même. Et alors tout d'un coup, cette dame, quand elle a retrouvé son mouchoir, alors son visage s'est éclairé. Elle était tellement contente. « Oh, j'ai tellement travaillé dessus. Oh, il est tellement joli. » Et tout d'un coup, pour la première fois de la journée, elle éprouvait des émotions intenses. Parce qu'elle avait retrouvé son mouchoir. Comme c'est triste. Comme c'est triste. Comme c'est triste de mettre son amour premier dans un mouchoir. Hein? Normalement, on y met autre chose, hein? Dans le mouchoir. Alors, il me dit, il faut que, quelquefois, je crois que Dieu va nous montrer, et il nous montre où nous en sommes. Et c'est une des expériences, à mon avis, les plus, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un disciple, c'est une des expériences les plus humiliantes qui soient. Lorsque Dieu lui-même est en train de souligner, de mettre en évidence dans notre vie que notre amour premier n'est plus pour lui et que nous en avons, que nous l'avons perdu, que nous avons déchu, que nous sommes revenus en arrière. Souvent, on a du mot amour une perception qui est très souvent romantique, une perception qui est seulement émotionnelle, affective. Et c'est pour ça que quelques personnes, je pense, qu'il y a des chrétiens qui se déculpabilisent en lisant ce verset, en se disant, oui, mais l'amour, c'est quelque chose qu'on a, comment on peut faire? Moi, je peux pas le fabriquer. L'amour, c'est des sentiments. L'amour, c'est pas des sentiments. Agapé, c'est pas des sentiments. Ça comprend des sentiments. Ça induit des sentiments. Ça entraîne des sentiments. Mais c'est pas d'abord des sentiments. C'est d'abord une relation. Et c'est pour ça que nous sommes responsables. Dieu ne nous demanderait pas d'éprouver quelque chose sur lequel nous n'aurions pas prise. Sinon, ce serait pour le coup, ça serait injuste. Mais si Dieu nous dit de l'aimer à l'impératif, c'est que nous pouvons. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention. On peut continuer après? Et la parole de Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Avoir perdu son premier amour, c'est être tombé. C'est être tombé. C'est pas quelque chose de neutre. C'est pas simplement comme si, à un certain degré, dans un niveau, on est un peu en dessous. Non, c'est être tombé. Quand on tombe, on se fait mal, non? C'est être tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. S'il dit repens-toi, c'est que Dieu considère que c'est un péché. C'est que Dieu considère que c'est une faute. C'est que c'est quelque chose dont on doit demander pardon à Dieu. On doit venir à ses pieds et lui dire, je me repens, je te demande pardon. Change-moi, purifie-moi. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais pour que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. C'est pas quand on relève des choses comme ça, c'est pas pour vous mettre un bon coup derrière les oreilles. C'est pas pour que tout le monde sorte d'ici en ayant la tête basse. Ah ben dis donc, on a bien pris aujourd'hui, hein? Mais c'est pour qu'on puisse sortir content. C'est pour qu'on puisse sortir en se disant, mais dans quel état j'étais? Mais heureusement que je me suis rendu compte. Heureusement que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Heureusement que le sang de Jésus m'a purifié. Heureusement que je peux repartir à nouveau avec l'enthousiasme que Dieu va mettre dans ma vie. Alors on ressort avec force, avec joie. Et pratique tes premières œuvres. Vous voyez, pas, Jésus a pas dit qu'ils avaient plus fait des œuvres. Mais il dit, vous avez fait des œuvres. Mais maintenant, il dit, repratique tes premières œuvres, les œuvres que tu faisais parce que tu les faisais dans ce premier amour. Parce que faire des œuvres, on peut faire des œuvres. On peut toujours faire des œuvres. On peut toujours faire des trucs et des machins. On peut toujours s'activer. Mais c'est des œuvres. Mais les œuvres du premier amour, ou les œuvres de l'amour premier, c'est à ça que le Seigneur, c'est ça qu'il recherche dans notre vie. Sinon, dit le Seigneur, je viendrai à toi. Vous voyez, maintenant, il y a l'agissement du Seigneur lui-même. Et il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Quelquefois, il y avait des bougies là. Des chandelles. Non, comment on dit? Oui, des bougies. Il y avait un chandelier. Je m'étais dit, tiens, s'il y a le chandelier, je vais en prendre une. Je vais l'enlever. Comme ça, on va bien voir. Je ne crois pas que Jésus est en train de dire, je supprimerai ton chandelier. Mais il dit, je l'ôterai de sa place. C'est pas une condamnation définitive. C'est pas l'exclusion, c'est pas l'annihilation. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans sa présence, va prendre du recul. Ce qui est terrible dans la vie d'un chrétien, c'est quand il sent que la présence de Dieu se retire de lui. Ou plutôt qu'il se retire de la présence de Dieu. C'est ça qui est souffrant. À moins que tu ne te repentes. Il y a toujours de la part de Dieu ce conditionnel. Hein, tout à l'heure, on a demandé, est-ce que vous avez perçu que Dieu est fidèle? Oui, nous avons perçu que Dieu est fidèle. La Bible dit, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Ça ne veut pas dire que Dieu nous passe tout d'une manière bonasse et indulgente. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une mauvaise situation, lorsque nous sommes infidèles, dans sa fidélité, Dieu va tout faire pour nous ramener. Mais il va tout faire. Et si ce qu'il doit faire doit être difficile, il va le faire quand même, justement parce qu'il est fidèle. Justement parce qu'il nous aime. Justement parce qu'il va s'adresser à nous de manière à provoquer en nous un changement ou une transformation. À moins que tu ne te repentes. Hein. Encore ? Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, je ne sais pas si Nicolas est là. Je ne l'ai pas vu ce matin. Mais non, il est gentil, Nicolas. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hein, à celui qui vaincra. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, qui doit beaucoup nous, qui doit nous interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? À celui qui vaincra. Qui est un vainqueur? À partir de quand on est un vainqueur? Est-ce que vous êtes des vainqueurs? Tout à l'heure, on vous a dit que nous sommes tous des héros. Qui est un vainqueur? Les vainqueurs, levez la main. Je vois qu'il y a des gens qui hésitent. C'est quoi être vainqueur? Est-ce que c'est avoir atteint un niveau de perfection, un niveau de sanctification? On est vainqueur à condition d'avoir, et puis alors on fait une fiche. Hein, comme un QCM, on fait une fiche avec des cases. Si vous avez une majorité de croix dans la colonne, oui, c'est bon, vous êtes vainqueur. C'est ça être vainqueur? Je crois qu'être vainqueur, c'est être dans ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est être dans le combat que Dieu a mis devant chacun d'entre nous. Moi, j'ai les miens, vous avez les vôtres, chacun a les siens. Et être vainqueur, c'est pas quelque chose qui peut se définir avec des choses quantifiables devant nous. Bien sûr, c'est Dieu qui le voit, mais j'allais dire, on sait au-dedans de nous si on l'est ou pas. Nous avons chacun des difficultés. Il y a des choses qui, pour moi, sont difficiles, que vous avez résolues depuis longtemps. Et puis, il y a des choses que, des fois, je vois difficiles dans la vie de certaines personnes. Et moi, ça m'étonne. Je dis, pourtant, Jésus nous a délivrés de ça. Ça me paraît tout naturel. Mais là où j'ai des difficultés, Dieu me dit, est-ce que tu es vainqueur, hein? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui est vaincra, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez, encore une fois, cette lettre à l'église d'Éphèse souligne la communion, souligne la relation, l'amour et la relation. Jésus a commencé par se positionner comme étant celui qui marche au milieu des chandeliers, comme étant celui dans la main duquel sont les responsables, une proximité. Et il termine aussi cette lettre sur ce même thème. Si vous faites ces choses-là, alors moi je vous garderai dans le paradis de Dieu, dans la présence même de Dieu. Est-ce que nous avons le sentiment de vivre dans cette présence, hein? Ce matin, c'est sur ce sujet que j'avais vraiment envie de vous interpeller et de m'interpeller. Ne croyez pas que quand les pasteurs parlent, ils parlent comme ça de parce qu'on a fait une estrade, c'est juste pour que vous nous voyez depuis le fond. C'est pas pour faire malin. C'est pas pour essayer de faire croire qu'on est au-dessus. Nous avons nos luttes, nous avons nos combats, nous avons nos difficultés. Et nous avons la force de Dieu, comme vous avez la force de Dieu. Comme nous avons chacun à être vainqueur dans les domaines où nous devons être vainqueurs. Dieu ne nous demandera pas si on a vaincu sur le terrain d'un camarade. Dieu ne nous demandera pas si nous avons été vainqueurs dans le combat qu'un autre doit mener. Mais Dieu va nous demander ce que nous avons fait dans le terrain sur lequel nous sommes chacun, à celui qui vaincra. Comme ce serait dommage de pas être vainqueur, comme ce serait dommage de passer à côté. J'aimerais ce matin que nous puissions chacun nous laisser peut-être le Saint-Esprit faire cette espèce de bilan, cette espèce d'audit au dedans de nous, que nous puissions le faire sans complaisance, sans apitoiement sur soi non plus. Le truc, c'est pas d'être là et puis de battre sa coulpe, hein. Je suis le plus mauvais, je suis le plus mauvais, je suis le pire de tous, hein. Ça, c'est le syndrome de Joe Dalton. Mais ça sert à rien. Ça, c'est encore religieux, ça, c'est encore. Non, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Où est-ce que je dois changer? Où est-ce que je dois faire des progrès? Qu'est-ce que je dois réaliser? Seigneur, je veux t'aimer en premier. Je veux t'aimer le premier. Si tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, si c'est le premier commandement, c'est pas le premier seulement parce que c'est le premier sur la liste. C'est le premier parce que c'est le premier dans l'ordre de l'importance. Alors, je sais bien, quelqu'un me dit, mais beaucoup de gens disent, oui, mais moi, je voudrais bien, mais Dieu a qu'à le faire en moi. Mais oui, de toute façon, si on aime Dieu, c'est Dieu qui met son amour en nous. Mais il ne le fait que dans la mesure où nous le voulons aussi. Que dans la mesure où nous lui permettons de le faire. Hein. Et si nous le recherchons, je crois que nous allons le trouver. Si nous faisons attention à discerner en nous-mêmes sous ce regard dont nous avons dit que c'est un regard de feu, si nous laissons ce regard de feu venir sur nous, pas pour nous détruire, c'est pas un super laser, mais c'est un regard qui nous permettra de voir clair, une lumière qui nous permettra de voir clair au-dedans de nous. On peut être très ignorant de ce qui se passe à l'intérieur même de nous. C'est comme dans le cosmos. C'est plus facile pour l'homme. Ça a été plus facile pour l'homme d'aller sur la Lune et de faire avec des sondes le tour de Mars que de descendre dans la Terre elle-même. On ne peut pas rentrer dans la Terre. On a juste gratté l'écosse terrestre, mais proportionnellement au volume de la Terre, c'est à peine gratter la surface, à peine. Mais on peut aller très loin. Mais au-dedans de nous, il faut pas seulement que, quant à ce que nous sommes, il faut pas seulement qu'on gratte la surface. Il faut que nous laissions ce regard de Jésus explorer l'intérieur et que nous acceptions de nous voir, de nous reconnaître, de nous laisser voir par celui qui veut nous permettre de nous connaître pour être changé. Est-ce qu'on pourrait maintenant demander au Seigneur, dire Seigneur, peut-être on va fermer les yeux, puis on va prier ensemble. Hein? Je vous invite, si vous voulez, à prier en même temps que moi, même si maintenant on le fait d'une manière, évidemment comme ça, un petit peu rapidement. Mais peut-être que ça vaut le coup de reprendre ça après, chez vous, tranquillement, aujourd'hui. Seigneur, j'accepte de me laisser sonder par ton regard. Hein? J'accepte, Seigneur, je veux paraître devant toi. Je ne veux pas ignorer ce que tu penses de moi, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Seigneur, montre-le-moi. Seigneur, je reconnais, pour ceux qui le reconnaissent, dites-le avec moi. Je reconnais que j'ai laissé d'autres choses devenir un amour premier en moi, avant l'amour premier que je devrais avoir pour toi. Seigneur, je reconnais que par là, je suis tombé et je me repens et je te demande de me pardonner. Oh Seigneur, que le sang de Jésus maintenant vienne au-dedans de moi, me purifie et me lave. Seigneur, je te demande pardon, je veux t'aimer en premier, je veux t'aimer au-dessus de tout. Seigneur, je veux pas me faire avoir par quoi que ce soit d'autre. Je veux t'aimer, Seigneur Dieu, toi, le premier. Je veux aimer Jésus au-dessus de tout. Seigneur, ne me laisse pas, à cause de différentes choses, de la convoitise, du péché, de mes blessures, de mes peines, de ceci, de cela, des expériences, de l'environnement, ne me laisse pas faire autrement que ça. Seigneur, je ne veux pas me donner de repos jusqu'à ce que je sois sûr que c'est toi que j'aime le premier. Merci Seigneur, aide-moi dans ce domaine, au nom de Jésus.
Enseigne-moi.com
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.